Vous êtes sur RTL.
Avec vous. RTL Matin.
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h43. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Melinda Gates, co-présidente de la fondation Bill et Melinda Gates.
Bonjour Melinda Gates, good morning et merci d'être avec nous depuis Seattle.
Thanks for having me.
Merci de m'avoir invité.
Votre fondation annonce un engagement financier supplémentaire pour lutter contre le Covid-19 à l'échelle mondiale. Nous allons bien sûr en reparler. Mais tout d'abord, Melinda, votre mari Bill Gates avait alerté sur une pandémie mondiale en 2015. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Est-ce que c'était une obsession?
We've both been discussing for many years.
Cela fait des années, en fait, que nous évoquons cette possibilité d'une pandémie mondiale, et c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup inquiétés à la maison. Il a fini par en parler, effectivement, et il en a parlé à la presse également.
Melinda Gates, est-ce qu'en tant qu'Américaine, vous êtes très inquiète?
I'm quite concerned about
Je suis assez
oui,
soucieuse,
COVID
préoccupée, parce que s'il y a du Covid quelque part, ça veut dire qu'il peut y en avoir partout. Et on voit que toutes les familles dans le monde entier sont affectées par cette maladie. Et ce sont les plus vulnérables, bien sûr, qui sont les plus touchés. Et ça, c'est ma préoccupation numéro un.
Alors, puisque dans votre famille, vous en aviez parlé depuis longtemps, est-ce que votre mari, Bill Gates, a appelé Donald Trump, le président américain, pour lui parler du virus?
On a eu beaucoup de conversations avec l'administration américaine, avec le Centre pour le contrôle des maladies, mais il se trouve que ni lui ni moi n'avons parlé directement avec le président de cela.
Alors, Donald Trump a annoncé qu'il suspendait les dotations à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comment jugez-vous cela, Melinda Gates?
Je pense que cesser de financer l'OMS est absolument idiot et absurde en pleine pandémie. L'Organisation mondiale de la santé elle a été créée pour faire face justement aux crises sanitaires dans le monde entier. Notre fondation travaille depuis plus de 20 ans avec l'OMS. C'est une organisation qui est efficace et c'est cette organisation qui peut nous aider dans cet effort de coordination de l'effort international.
Mais vous trouvez que l'OMS joue bien son rôle? Vous savez qu'elle a été critiquée, on a dit qu'elle avait assez peu de pouvoir, pour ne pas dire pas du tout. Elle est quand même essentielle à vos yeux?
Je pense que c'est fondamental d'avoir l'OMS au milieu de cette crise. Et il faut que nous ayons un effort mondial en coordination. Or, l'OMS travaille dans quasiment tous les pays du monde. Voyez par exemple l'éradication de la variole en France, aux États-Unis, en Afrique. Pourquoi est-ce qu'elle a pu être éradiquée? Eh bien, c'est parce qu'on a travaillé sur l'ensemble de la planète et on l'a fait dans un effort coordonné. Autour de l'action de l'OMS, c'est précisément cette organisation qu'on a créée pour avoir cette communauté internationale qui nous aide à faire face à ce genre de crise sanitaire comme celle que nous rencontrons aujourd'hui.
En tout cas, dans cette coopération, il y a votre fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, qui va apporter un engagement financier supplémentaire pour lutter contre le Covid-19. Combien allez-vous mettre sur la table? Combien de millions de dollars?
Actuellement, nous annonçons aujourd'hui un complément de financement de 150 millions de dollars pour faire face à cette crise, notamment dans les pays à revenus faibles et moyens. C'est un financement très flexible qui va permettre de financer des équipements de protection. Ça va, si vous voulez, permettre aussi d'utiliser les centres qui étaient des centres de lutte contre la polio initialement, qui vont être reconverti, reformaté pour lutter contre le Covid et ça va permettre aussi de trouver des solutions à travers des partenariats locaux parce que c'est souvent au plan local qu'on a les bonnes idées pour aider les gens à résoudre leurs difficultés lorsqu'ils sont isolés, notamment physiquement.
Et donc, vous avez beaucoup alerté sur l'Afrique et vous vous y rendez très fréquemment. Pourquoi dites-vous que l'Afrique, c'est le principal risque aujourd'hui?
Il se trouve que cette maladie, on l'observe, on voit qu'elle est en train de se répandre dans le monde entier. Nous savons que ce n'est que le début sur le continent africain. Et comme vous le disiez, j'ai la chance effectivement de me rendre plusieurs fois par an en Afrique. Et je vois, cette, si vous voulez, ce tempérament de ces Africains qui se débroussent. Ce sont des gens qui ont déjà traversé bien des crises. Ils sont prêts à essayer de faire un effort, mais si on ne les aide pas à mettre en place leur système sanitaire de base, si on ne peut pas mettre à profit en Afrique ce que l'on a pu apprendre en Corée, en Allemagne, on va au-devant d'une crise majeure. Et les gens qui sont les plus touchés, eh bien, ce sont toujours les plus vulnérables, ceux qui sont déjà à la limite de leurs possibilités, qui ont déjà du mal à manger trois fois par jour.
Et vous saviez combien il est difficile de respecter le confinement en Afrique, notamment en raison de la chaleur et en raison de ce qu'on appelle l'économie informelle, les petits métiers. Les gens doivent sortir pour avoir des revenus. Ça, c'est compliqué.
Effectivement, lorsque l'on vit dans un foyer où il y a par exemple 5 personnes qui partagent une chambre à coucher, l'un attrape le virus, il va être très très difficile de respecter la distanciation sociale. Ou alors, comme vous le disiez, ces gens qui doivent sortir de la maison pour aller chercher à manger, très souvent c'est compliqué de trouver de l'eau propre pour se laver les mains dans ces zones défavorisées. Voilà pourquoi j'insiste sur la nécessité de se locale. Par exemple, en Inde, les femmes, au niveau local, ont mis en place des petits systèmes qui permettent d'avoir des espèces de petites échoppes qui sont suffisamment éloignées où tout un chacun peut venir chercher les choses dont il a besoin pour la journée, les besoins quotidiens. Donc, c'est des petites choses à mettre en place aussi en Afrique, qu'on peut déployer dans différentes communautés dans le monde.
Est-ce que votre fondation va permettre d'envoyer en Afrique des masques, des respirateurs, des équipements ?
Le rôle de notre fondation, c'est de travailler avec des partenaires dans cet effort coordonné, c'est-à-dire que nous ne fabriquons pas nous-mêmes des équipements, des approvisionnements. En revanche, nous travaillons sur la recherche médicale pour trouver à la fois des médicaments, des vaccins. Nous voyons ce qui fonctionne et comment on peut diffuser ces idées. Exemple, au Pakistan, on sait par exemple que les gens ont besoin de faire des transferts d'argent liquide, d'espèces. Eh bien, au Pakistan, on a mis en place un système en 3 jours qui permet de faire ces petits transferts d'argent, de petites sommes à l'attention des femmes notamment, puisque c'est elles qui gèrent le ménage. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en quelques jours, plus de 3 millions de familles ont demandé à utiliser ce système. On utilise d'ailleurs déjà ce qu'on appelle un portefeuille digital qui va permettre de faire des transferts dans ce petit portefeuille digital. Déjà, on va beaucoup travailler là-dessus aussi.
Melinda Gates, évidemment, vous êtes très engagée pour, en faveur des traitements et d'un vaccin. Hein. Votre fondation est engagée dans plusieurs projets. Où en êtes-vous exactement ?
Effectivement, avec Bill, nous avons annoncé il y a quelque temps que nous allions faire donc un don de 100 millions de dollars pour faciliter les tests. Il s'agissait aussi de chercher des médicaments qui vont permettre de lutter contre la maladie et puis aussi la recherche, bien sûr, vous le disiez, d'un vaccin. Donc on travaille dans ces différents axes, notamment au niveau des vaccins. On est en train de sélectionner un certain nombre de candidats, de vaccins possibles qu'on va mettre en phase d'essai précliniques. Et nous travaillons aussi sur la mise en place de réponses adaptées aux communautés les plus vulnérables, aux États-Unis notamment.
Dans combien de temps pensez-vous ?
Nous allons donc poursuivre ce travail de manière coordonnée.
Dans combien de temps pensez-vous pouvoir fournir un vaccin ?
La communauté scientifique nous dit que cela devrait prendre probablement quelque chose comme 18 mois. En revanche, ce qui m'encourage vraiment, c'est que je vois que cette communauté scientifique travaille ensemble. Les fabricants de vaccins également se joignent à cette réflexion et je vois qu'il y a des partenariats qui sont en train de se nouer pour faire en sorte que l'on ait autant de vaccins possibles à tester pour trouver une solution au plus vite.
Il y a un aspect qui vous tient à cœur dans cette crise, ce sont les violences à l'intérieur des familles, violences aux femmes et aux enfants. Vous dites que ce sont les grandes victimes du confinement. En France, le nombre de violences a explosé, dans les autres pays aussi ?
Effectivement, nous voyons que cette maladie ne touche pas tout le monde de la même manière. On voit qu'effectivement, il y a une progression de la violence à la maison, les violences domestiques en Europe, dans de nombreux pays, aux États-Unis, en Inde, sans aucun doute, et très certainement dans d'autres pays. En revanche, il y a des initiatives comme l'initiative française, mettre en place, par exemple, ces points de contact dans les pharmacies ou dans les épiceries. C'est quelque chose de très bien. Et je pense que vraiment, la France est en train, si vous voulez, d'être... il sait que c'est très important. Le président Macron, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit comme c'était important de protéger les femmes, les jeunes filles. Nous savons aussi que lorsqu'il y a eu des crises précédemment, ces violences se sont développées. Les grossesses des jeunes filles aussi se sont multipliées. Donc, il faut penser à tout cela. Raison de plus pour avoir ces transferts d'argent digitaux directement aux femmes, ça leur permet de faire ce qu'il y a à faire, de protéger la communauté. Très franchement, je pense que la France n'a pas à pâlir de ce qu'elle fait, que ce soit au niveau des actions locales ou de la coordination également. C'est très encourageant.
Merci Melinda Gates.
Thank you.
Et merci.